Et aujourd'hui, quand on voit que tour à tour, toutes les enseignes de la grande distribution qui s'équipent de rayons vrac, même les magasins discount comme Lidl, le font avec du bio.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants, de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Célia. Bonjour Célia.
Bonjour Bruno.
Alors, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui parce que on va traiter d'un sujet qui monte beaucoup, dont on parle de plus en plus en ce moment. Et c'est le vrac, puisque tu es la cofondatrice de Réseau Vrac. Tu vas nous présenter tout ça très rapidement, mais ce qui me semblait intéressant, c'est aussi d'introduire le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que le vrac, c'est 0,5% du marché de l'alimentation, mais c'est une tendance de fond qui progresse énormément. Il y a près de la moitié des Français qui ont acheté en vrac au cours des 12 derniers mois, selon une étude de Kantar, si je me suis bien renseigné. Et puis surtout, comme on disait à l'instant, ça ne cesse de progresser. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup avec ce sujet, c'est que ça recoupe avec des thèmes, avec l'origine, la qualité des produits, le pouvoir d'achat, la place des distributeurs et notamment la transformation de la grande distribution, l'engagement citoyen, la sortie des emballages jetables ou encore le gaspillage alimentaire. Bref, un sujet qui a quand même pas mal de conséquences potentielles et donc qui me semble intéressant de creuser avec toi aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, donc moi, je suis Célia, j'ai 35 ans et j'ai cofondé en 2016 l'association professionnelle Réseau Vrac parce que j'avais envie qu'on puisse changer les choses à grande échelle et notamment notre mode de consommation et trouver une alternative crédible au pré-emballé.
Alors comment, parce que j'ai fait une petite recherche, comment tu passes de la publicité, de l'affichage au réseau vrac finalement ?
Alors c'est d'abord venu d'une réflexion personnelle. En 2013, j'ai pris conscience que ma consommation, qui était essentiellement bio, avait ses limites, puisque je générais du gaspillage de produits, parce que parfois j'étais obligée d'acheter avec une quantité imposée qui correspondait pas forcément à mon besoin, et d'autre part que cette consommation était génératrice de déchets d'emballage jetable puisque je ne pouvais pas utiliser mes propres contenants, mes propres emballages. Et à ce moment-là, je m'étais dit, il faut que je puisse créer un supermarché. Enfin, il faut qu'existe un supermarché dans lequel les produits seraient vendus sans leurs emballages, qui me permettrait du coup de choisir ma juste quantité et de venir avec mes propres contenants. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'offre de vrac existante historiquement dans les magasins bio était assez limitée et du coup ne me permettrait pas de faire la totalité de mes courses en vrac. Donc je me suis mise en quête d'ouvrir une épicerie vrac entre 2013 et 2014 avec une amie à ce moment-là.
À Paris,
ouais, exactement, parce que j'habite à Paris. Et on a essayé de rencontrer des fournisseurs, des banquiers, on a même fait une étude terrain dans la rue pour essayer de tester un peu l'appétence des consommateurs. Et cette phase-là a été assez complexe parce qu'on s'est retrouvé très rapidement seul face au néant, au vide, parce qu'il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait pas de formation spécifique pour les métiers du vrac, il n'y avait pas d'informations en termes législatifs, en termes de bonnes pratiques d'hygiène. Les fournisseurs étaient essentiellement des fournisseurs qui livraient des magasins bio en grand volume, donc pas adaptés pour une petite épicerie de quartier. au niveau des banques, ils me regardaient avec des grands yeux en me disant « Mais votre épicerie, madame, vous êtes sûre qu'elle va rapporter ?» Parce que à Paris, notamment, les pas de porte et les beaux commerciaux sont extrêmement chers. Donc, il y avait un véritable enjeu de trouver un équilibre économique. C'était un vrai challenge. En plus, on était deux à vouloir monter le projet. Donc, on s'est pas découragé pour autant. On a continué, voilà, à creuser et à avancer. Mais c'est vrai que le projet semblait assez difficile. À ce moment-là, moi, en parallèle, personnellement, j'étais en train de construire une vie de famille. J'étais toujours dans mon ancien travail, dans la publicité, comme tu le disais. Et je commençais vraiment à me dire, je peux pas continuer à développer un projet professionnel personnel en étant, dans mon emploi, j'arrivais pas à être pleinement disponible. Du coup, je suis partie de mon ancien travail pour me consacrer justement pleinement à ma reconversion professionnelle. Et la création de Réseau Vrac, elle a résulté de deux choses, donc de ce projet personnel de monter une épicerie Vrac qui a fini par avorter, faute d'environnement facilitateur, et aussi par la réalisation personnelle que j'avais compris, qui était de me dire, au final, je ne suis pas certaine de me sentir en mesure de tenir une épicerie Vrac. Le projet m'intéressait beaucoup. J'étais vraiment motivée pour changer les choses et amener une autre mode de consommation. Mais à ce moment-là, j'étais en train de me marier, j'avais vocation à avoir des enfants, et j'étais pas certaine de tenir le rythme, voilà, de ce métier-là. Et donc, du coup, mon projet personnel a avorté, mais m'a permis de rencontrer des personnes. Donc, c'est de la deuxième chose. Donc, c'est vraiment la rencontre entre mon projet personnel et la rencontre avec Zero Waste France et Didier Onreita de Day by Day, qui a fait que j'ai accepté de prendre en main la création d'une instance à part entière qui est Réseau Vrac. C'était un groupe de travail animé par Zero Waste en 2015. Parce que...
Peut-être présenter Day by Day en quelques mots, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Day by Day.
Alors, Day by Day, c'est une franchise d'épicerie 100% vrac.
Ok, parfait.
Voilà.
Donc, tu disais ce fameux groupe de travail qui était animé par Zero Waste. On est en 2015, à peu près?
C'est ça, on est en 2015. Donc, moi, j'ai été en contact avec eux en 2015. Ils ont toujours une branche dédiée aux entrepreneurs du zéro déchet. Et cette branche des entrepreneurs du zéro déchet comportait des porteurs d'épicerie vrac. Des porteurs de projets d'épicerie vrac. Du coup, en 2015, ils avaient animé un, deux ou trois groupes de travail, je ne sais plus précisément, pour essayer de mettre en lien ces porteurs de projets et de les accompagner du mieux qu'ils peuvent pour qu'ils puissent ouvrir leur épicerie vrac. Et le nombre de ces porteurs de projets est devenu croissant très fortement, ce qui fait que Zero Waste s'est retrouvé un peu submergé par les demandes et ne pouvait plus accorder tout le temps nécessaire à ces personnes-là, et de toute façon n'avait pas vocation à, comment dire, à accompagner des professionnels dans toute la durée. Zero Waste est une ONG citoyenne. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose de naissant autour du vrac, mais il faut que ça se sépare de nous. Nous, on a impulsé, maintenant il faut que ce groupe de travail devienne une entité à part entière. Donc il y avait tout à créer, un peu comme une start-up. C'était, voilà, un projet entrepreneurial à prendre. Et comme moi, j'étais partie de mon entreprise, j'étais du coup disponible. Et j'avais la chance à ce moment-là de toucher le chômage, ce qui m'a permis du coup de pouvoir mettre à profit mon chômage pour créer de zéro, sans subvention, une association.
Excellent. Et donc justement, ça nous amène à finalement la mission de Réseau Vrac, dont tu commences en 2015-2016.
Février 2016.
De zéro. Avec une transmission de savoir, de contact, j'imagine, de la part de Zero Waste.
Tout à fait.
Et puis peut-être un accompagnement bienveillant, je suppose.
Ah, évidemment. Et de Didier aussi.
Voilà. Et donc justement, bah, raconte-nous un petit peu, voilà, vous avez dû vous mettre d'accord sur une mission, laquelle est-ce ?
Alors la mission, elle a été de créer Réseau Vrac. Et avec Didier, pour nous, l'idée était d'avoir une véritable vision filière. Les groupes de travail étaient très centrés autour des porteurs de projets. Mais pour moi, j'avais à cœur de me dire, si on veut créer un véritable mouvement de fond d'une nouvelle consommation, il faut pouvoir impliquer l'ensemble des acteurs d'une filière et non pas qu'un seul bout de la filière. Donc la mission, le but ultime de Réseau Vrac, c'est de démocratiser la vente en vrac et la consommation en vrac. Et donc de créer toutes les conditions pour que cette filière, ce marché se développe. Parce que comme je te le disais au début, il faut savoir qu'il n'y avait rien. Donc créer les conditions de marché, c'est créer les outils, les services, la mise en réseau, la construction d'un cadre législatif qui va permettre à chacun des acteurs désireux de se mettre dans ce secteur-là, d'être rassuré, de savoir qu'il y a un cadre, qu'on ne développe pas une activité n'importe comment. C'est tout le risque de, c'est le risque de tout entrepreneur, de ne pas avoir de cadre défini dans lequel développer son activité. Donc la vision de démocratisation du vrac, elle s'est faite sur trois temps forts. Le premier, c'est de structurer le secteur. La deuxième, c'est de développer une fois qu'on a structuré. Et ensuite, d'encourager, de diffuser. Les deux premières années, on s'est vraiment attaché à structurer ce secteur qui n'avait rien. Donc c'est passé notamment par la création d'outils comme un guide juridique de la vente en vrac, qui a été développé avec l'aide d'une avocate qui nous a aidés. Donc moi, ça fait les tout premiers mois, j'ai rencontré une avocate à la suite d'une conférence que j'avais donnée au Mans, qui était venue me voir et qui avait proposé ses services et qui a accepté de travailler pour nous quasiment bénévolement à la création de ce guide, puisque comme tu le savais, il n'y avait pas de revenus au début et pas de subventions. Donc il y a eu aussi toute la construction du modèle économique.
Et puis ce qui est génial, c'est que comme tu avais rencontré toutes les difficultés, tu savais précisément ce qu'il fallait faire au fur et à mesure.
Exactement. Je pense que ce qui a été un atout et ma force, ça a été de passer par là. Zovrac avait aussi vocation à pouvoir aider tous les entrepreneurs qui s'étaient trouvés dans ma situation, mais également les acteurs qui étaient déjà immergés dans le vrac, et d'aller beaucoup plus loin pour construire ce marché.
Ouais, c'est surtout que c'est un sujet, quand on passe devant un rayon vrac, on se rend pas compte aussi de toutes les problématiques qui sont liées à la distribution, notamment l'hygiène, le réassort, etc. Enfin, c'est quand même c'est pas juste, on rajoute des boîtes avec des petites pelles, quoi. Enfin, c'est quand même, ça va bien plus loin que ça.
C'est ça, c'est vraiment un autre métier. C'est une autre manière de s'organiser, de travailler avec ses fournisseurs, de s'adresser à ses clients, de tenir son point de vente, d'écrire ses étiquetages, de faire sa traçabilité. C'est vraiment un autre mode de distribution et de consommation à part entière.
Et j'ai mes vieux travers de marketeur qui reviennent à l'esprit. Et puis il y a aussi toute une dimension de marque aussi qui disparaît, parce que c'est beaucoup plus difficile pour les marques. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, c'est qu'elles ont de grosses difficultés à se projeter dans le vrai, dans le sens où une fois que le produit est dans les placards, dans les foyers, ben il y a plus tous ces messages là, etc., qui sont indispensables pour tout marketeur aujourd'hui. Donc ça change vraiment tout, quoi.
C'est vrai, on le voit. Alors c'est en train d'arriver, hein. Les marques s'intéressent au vrac, mais effectivement jusqu'à présent le vrac ne s'est pas développé avec les marques. Et j'aime beaucoup beaucoup dire ça, mais pour moi, dans le vrac, le produit est son propre marketing. Et le discours commercial, c'est le distributeur, c'est le commerçant qui le porte. Parce qu'il a soigneusement choisi son fournisseur, son producteur, et qui connaît sur le bout des doigts les produits qu'il vend.
Oui, et puis là, justement, ça nous amène beaucoup plus au retour d'expérience, à la qualité des produits. Donc, tu l'as évoqué aussi au début, c'est que c'est souvent des produits qui sont plus bio, on n'est pas sur des produits classiques ou low cost, même si j'ai rien contre le low cost, évidemment. Mais effectivement, on en revient vraiment à quelque chose de très brut au niveau de la proposition.
Oui, on est sur une proposition plus brute. Le vrac tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, dans des treillis ou des silos ou avec les bacs à pelle, est arrivé en France dans les rayons des magasins bio. Donc il a effectivement une vraie affinité aux produits bio. Cependant, on a vu qu'il y a eu des tests chez Auchan avec des rayons discount du vrac, donc qui n'étaient pas bio.
D'accord.
Qui, en très petite partie, continue d'exister, mais rapidement, toujours pour citer l'exemple d'Auchan, le vrac a été repositionné avec un rayon de meilleure qualité, des produits de meilleure qualité, et aujourd'hui, quand on voit que tour à tour, toutes les enseignes de la grande distribution qui s'équipent de rayons vrac, même les magasins discount comme Lidl, le font avec du bio. Sans que cette notion de bio ne fasse partie d'un cahier des charges du vrac. Donc c'est assez intéressant cette affinité qu'ont les distributeurs avec le vrac.
Et surtout ce qui est intéressant, c'est que le vrac permet de répondre à une autre problématique qui est souvent évoquée, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que souvent on dit le bio c'est plus cher, etc. Ça amène d'autres réponses, mais c'est plus cher, etc. Et donc, effectivement, oui, c'est plus cher si on prend plus que nécessaire. Et donc, le vrac aussi permet de se réadapter à ça. Et ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les enseignes que tu évoques vont là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses ?
La juste quantité.
Ouais.
La juste quantité, effectivement, pour beaucoup d'enseignes, le vrac bio permet à leurs clients de leur donner accès à des produits de meilleure qualité et plus sains pour eux et pour l'environnement en maîtrisant leur budget. Puisqu'en achetant uniquement la juste quantité, on peut du coup dépenser selon le budget que l'on s'est fixé.
Et justement, tu l'as évoqué à travers différents exemples, mais où on en est aujourd'hui du développement du vrac, d'abord auprès des particuliers, puis après on regardera pour les professionnels, comme tu l'as évoqué, pour les marques ou les distributeurs, mais déjà voyons auprès des particuliers, parce que moi je trouve que c'est un aspect intéressant. Moi, il y a quelques années, j'ai dit le vrac c'est sympa, mais en fait il n'y a qu'une minorité qui le fera, dans le sens où c'est, je trouve, hyper contraignant, faut avoir ses propres contenants, etc. Et je me disais, jamais... autant ce n'est toujours pas le cas, mais autant je commence à me dire que ça devient possible, que la majorité des consommateurs tendraient vers ce mode de consommation. Et mais bref, où en est-on aujourd'hui finalement?
Alors au niveau des chiffres consommateurs, Réseau Vrac travaille avec Nielsen depuis l'année dernière pour justement essayer de mesurer les consommateurs, le vrac chez les consommateurs français, tout circuit de distribution confondu. Et on parle des produits PGC, produits de grande consommation. Donc on ne va pas aller regarder le rayon frais, le rayon à la coupe, etc., ni les fruits et légumes. Hein. Vraiment uniquement sur les produits de grande consommation. En 2018, Nielsen avait posé quelques questions à l'ensemble de son panel et avait mesuré que 37% des Français avaient consommé du vrac au cours de l'année 2018. Donc on n'est pas sur une notion de régularité, mais on peut se dire que au moins 37% des Français ont consommé une fois du vrac en 2018. Et quand on a remesuré ce chiffre-là en 2019, ce chiffre est passé, a été augmenté de 3 points. Et donc, c'est 40% des Français qui, en 2019, ont consommé au moins du vrac dans leur vie. La notion qui va être intéressante après, ça va être de descendre à la fréquence. C'est de comprendre cette fréquence-là. C'est pour ça que, du coup, le chiffre que tu citais en tout début d'interview de 0,5%, 0,7%, 0,7%, est beaucoup plus moindre parce que nous, c'est la part de vrac qu'on estime chez des clients réguliers. Effectivement, quand on tombe sur des clients réguliers qui consomment plusieurs fois par mois du vrac, le chiffre tombe aujourd'hui drastiquement. Néanmoins, la tendance de fond qu'il faut observer, c'est que celle-ci est en forte augmentation. Et quand on a posé aussi la question aux Français de quelle était leur première, leur résolution pour 2020, la première résolution qui arrive en tête, c'est celle de consommer davantage de produits qui limitent les déchets d'emballage jetable. Donc là, sans le nommer, la réponse est le vrac. Après voilà, on connaît toujours la différence entre la résolution et l'application de cette résolution. Mais quand on voit qu'on est passé de 37 à 40%, on pense qu'on est sur une tendance de fond. Donc ça, c'est l'aspect consommateur. Et bien évidemment, plus le vrac va se développer, plus on va proposer un nombre de produits en vrac disponibles grand, une plus grande diversité disponible au plus proche de chaque citoyen. Donc c'est aussi beaucoup plus de points de vente proposant du vrac de qualité, bien tenu, avec des bonnes pratiques, plus on séduira les consommateurs. Et ça, c'est tout le travail que fait Réseau Vrac depuis 2016.
Okay, excellent. Et donc là, on l'a vu principalement avec les consommateurs. Et du point de vue des professionnels, donc tu l'as dit, d'un côté, il y a des entrepreneurs qui lancent des boutiques, mais il y a aussi les marques qui essayent de revenir à la charge. Puis tu as la grande distribution qui commence à aussi multiplier les points de vente vrac. Bref, là aussi, je pense qu'il y a un gros sujet sur qu'est-ce que le vrac maintenant auprès des professionnels.
Alors pour citer des chiffres, je vais commencer par ceux de Réseau Vrac, parce que c'est intéressant, c'est aussi là qu'on voit la progression. Donc en 2016, quand j'ai créé Réseau Vrac, il n'y avait quasiment aucun fournisseur, très peu. Mais vraiment, je comptais sur le doigt de la main.
Il fallait limite aller directement au producteur.
Voilà, fallait aller chercher pour leur dire d'adhérer à l'association, de joindre à nous, de se convertir au vrac. Et l'association était principalement peuplée par des porteurs de projets. Et les quelques épiceries vrac qui existaient, il y en avait à peine une vingtaine en 2016. Et aujourd'hui, Réseau Vrac fédère plus de 1300 adhérents, donc en l'espace de 4 ans. Et dans ces 1300 adhérents, donc on retrouve 600 porteurs de projets, environ 400 magasins, donc que ce sont soit des épiceries spécialisées vrac ou des magasins bio équipés de rayons vrac.
Juste petite précision, les porteurs de projets, c'est-à-dire que le projet n'est pas encore concrétisé, il est en préparation.
Il est en préparation. Le premier niveau, c'est j'ai un projet d'épicerie vrac, plutôt que de le garder pour moi et d'essayer de mûrir dans mon coin et d'avorter un an ou deux après, mieux vaut prendre directement une adhésion à Réseau Vrac, s'immerger dans le bain, aller consulter toute la médiathèque, se mettre en lien avec les professionnels pour accélérer le développement de son projet. Et suivre les formations, ce qui permettra aussi d'avoir un go-no-go personnel pour savoir si ce projet est fait pour soi. Oui. C'est vraiment important, hein. C'est un formidable accélérateur de développement de projet ou d'activité Réseau Vrac.
Oui, et puis en plus, j'imagine qu'il y en a même qui doivent se rencontrer, qui peuvent s'associer, etc.
Exactement, c'est un réseau professionnel. Voilà, donc on a de multiples fonctions. Et on fédère aujourd'hui plus de 300 fournisseurs, donc ce soit des producteurs, des transformateurs, des équipementiers, donc tout justement l'infrastructure hardware et software qu'on va avoir dans un magasin. Et donc aujourd'hui, on en a plus de 300. Donc ça, on a des adhésions quasiment tous les jours de l'ensemble de ces populations, porteurs de projets, magasins, fournisseurs. Donc c'est une vraie dynamique de secteur que l'on observe aujourd'hui, rien qu'au sein de l'association. Et au niveau du coup en dehors de l'association, donc tu disais les grandes chaînes de magasins s'équipent tour à tour. Donc comme je disais au début, les magasins bio sont natifs sur le vrac. Aujourd'hui, le taux d'équipement estimé de ces magasins est de 88%. Donc on estime que 88% des magasins bio en France sont équipés d'un rayon vrac. Et en ce qui concerne les hyper et les supermarchés, c'est environ 70%.
C'est déjà bien.
Au niveau des points, ce que je pense, c'est que ce taux d'équipement va continuer de s'accroître pour rapidement atteindre 100%. Des parcs seront équipés de rayons vrac au niveau de ces formats de magasins. En ce qui concerne la proximité...
De cette année, carrément, ou enfin, dans les...
Pas cette année, mais dans les trois prochaines années, d'ici 2022, oui, on va augmenter très très rapidement. Et ensuite, il y a les formats de proximité. Aujourd'hui, selon nos estimations, la moitié des formats de proximité sont équipés d'un rayon vrac.
Ok, d'accord. Donc ça, là aussi, ça doit être, c'est des structures qui n'ont pas les mêmes moyens aussi que
tout à fait.
Les grandes de la grande distribution.
Donc là, ça sera plus peut-être un petit peu moins rapide. Et encore, ça dépend des formats de proximité.
Ouais.
Tout va dépendre de l'emplacement, de la place qu'il y a en magasin, si ce sont des franchisés ou pas. Mais la tendance, elle est clairement à l'accroissement du parc et du taux d'équipement de l'ensemble de ces magasins-là.
Donc là, on l'a vu pour la grande distribution. Il y a 600 porteurs de projets. Alors, ils sont principalement en France ou tu l'évoquais peut-être en dehors de France?
Oui, alors j'ai pas fini de présenter toute l'association, mais on va le faire du coup peut-être un peu au fur et à mesure. Les 1300 professionnels adhérents que l'on a sont des adhérents francophones et ils sont présents dans 14 pays. Donc en très 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 grande majorité en France métropolitaine, mais on en a aussi dans d'autres pays comme à Hong Kong, au Luxembourg, au Canada.
Parce qu'en fait, il y a pas d'organisation professionnelle comparable à Réseau Vrac dans ces pays. Enfin, je veux dire, vous êtes une première mondiale, quoi.
Oui, c'est ça, effectivement. La volonté d'avoir créé une instance, une organisation propre qui fédère l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, ce point-là, pour moi, est primordial. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Vrac se développe aussi vite en France. C'est la possibilité de travailler avec tous ces acteurs-là, du coup de pouvoir remonter, comprendre leurs problématiques, les remonter, et de travailler pour lever l'ensemble des freins auxquels ils peuvent se heurter au quotidien. J'avais commencé à le dire dans la mise en œuvre de la mission de démocratisation, on avait dit structurer, développer, encourager. Toute cette mission-là se fait à travers deux axes, le lobbying et la mise en place d'outils et de services. Et donc, c'est vraiment ces deux jambes-là de Réseau Vrac qui permettent d'accélérer le développement du vrac. Et dans les autres pays, à ma connaissance, on n'a pas encore vu de structure comparable à Réseau Vrac se monter.
Et justement, ça nous permet de reprendre sur où en est-on pour les marques aujourd'hui, par rapport au vrac, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais effectivement, elles commencent à se saisir du sujet. Est-ce que tu as des initiatives, des cas à nous partager?
Alors, en France, on entend beaucoup parler de L'Oréal, qui commencerait à se lancer notamment sur la cosmétique solide, par exemple en vrac. D'autres marques s'interrogent. Donc il y a peut-être des projets dans les cartons pour les grandes marques qui sortiraient courant 2020. Et sinon, on a entendu parler...
Vous n'êtes pas forcément impliqué sur le sujet ou même pas en support
On est contacté, mais aujourd'hui Réseau Vrac s'adresse aux acteurs déjà engagés dans le vrac et qui partagent une charte, la nôtre. Et du coup, ce qui fait qu'on n'accepte pas n'importe quel adhérent. Il faut avoir vraiment inscrit le vrac comme un axe stratégique dans sa feuille de route, et non pas comme quelque chose d'accessoire. Partager aussi les valeurs sur la volonté de réellement réduire le gaspillage quand on met du vrac en œuvre, donc de revoir tous ces process. Donc voilà, il y a vraiment des engagements assez forts pour pouvoir être adhérent de Réseau Vrac. Et notre équipe prend au téléphone tous les fournisseurs qui souhaitent adhérer pour vérifier qu'ils cochent bien toutes les cases, qu'on est bien sur la même longueur d'onde.
Aujourd'hui, c'est principalement du déclaratif où vous allez jusqu'à aller rencontrer, je sais pas moi, leur site de production, comment ça se passe?
C'est du déclaratif, c'est un entretien téléphonique, on regarde effectivement sur leur site web. Aujourd'hui, on est équipe de 8 personnes, dont 4 salariés. Et le reste de l'équipe sont soit des stagiaires, soit des services civiques. On est basé à Paris. On n'a pas encore les moyens de pouvoir aller se rendre sur les sites de production, réaliser des audits, peut-être un jour. Pour l'instant, c'est de la pleine confiance. Voilà, c'est du déclaratif et de la confiance.
De toute façon, si les gens veulent adhérer à Réseaurac, c'est pas vraiment pour l'image, c'est surtout aussi pour s'améliorer, je suppose.
Pour s'améliorer, faire partie de ce secteur, aider à faire grandir ce secteur et eux-mêmes continuer à développer l'axe vrac dans leur production ou dans leur projet.
Et pour les années à venir, comment tu vois le vrac se développer, même si on l'a un petit peu évoqué jusqu'à présent, mais est-ce que pour toi déjà au niveau des citoyens, des consommateurs, ça peut devenir la norme?
C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, on voudrait vraiment que le vrac puisse s'inscrire comme un véritable réflexe de consommation, ne soit plus une niche, mais un standard, à côté du pré-emballé, et donc concourir à lever tous les efforts qu'on peut avoir à faire quand on se met dans un nouveau mode. De toute façon, tout changement est un effort au début. Et nous, ce qu'on veut vraiment réussir à faire, c'est que cet effort-là soit totalement intégré et fasse partie prenante de la consommation de demain et qu'on ne réfléchisse plus, que le vrac devienne une véritable évidence dans les outils qu'on est en train de déployer, de finaliser. Ça va être la sortie d'un guide à destination du consommateur, un vrai mode d'emploi pour l'aider à se mettre au vrac ou à aller encore plus loin dans sa démarche vrac.
Oui, tout à fait. Et c'est surtout que chez le consommateur, c'est pas juste changer de produit ou changer de rayon, c'est aussi changer la façon dont on se fait à manger. Enfin, ça, c'est un changement qui est encore plus impliquant, je trouve.
C'est des sujets qu'on observe, et dans toute notre feuille de route et notre et les pistes que l'on a, qu'on voudrait mener à moyen et long terme, c'est l'observation des changements de comportement qu'induit le vrac. Parce que comme tu l'as dit, acheter en vrac, cuisiner en vrac, penser vrac, c'est vraiment différent. Quand on se retrouve en magasin face à un silo avec des pâtes, on n'est plus là en train de se dire « je prends mon paquet de telle marque et je le mets dans mon caddie », on est là en train de se dire « d'accord, donc je veux cuisiner des pâtes ». Mon besoin, ce sont des pâtes. Donc quelles pâtes, quelle quantité, quel repas, quelle cuisson, et du coup se réapproprier les quantités, c'est aussi un changement. Quand on conserve ensuite ces produits-là dans son placard, ils sont beaucoup plus visibles, donc aussi c'est une meilleure gestion de ses stocks. C'est, comme tu disais, réapprendre à cuisiner parce qu'on s'intéresse davantage aux produits. Et on aimerait vraiment observer les implications qu'a le vrac sur les changements de comportement. Ça fait partie aussi des choses qu'on voudrait pouvoir mesurer, avec évidemment en parallèle les impacts de réduction du gaspillage dans sa globalité. On travaille aussi beaucoup en interne sur la réduction en amont des emballages entre le magasin et le fournisseur. On a mené 3 groupes de travail l'an dernier. On a récolté un certain nombre de bonnes pratiques qui existaient déjà en local entre l'épicerie vrac et le fournisseur. Et maintenant, on est en train de s'attacher à cette problématique d'un point de vue national. Une épicerie qui est située à Rennes, par exemple, et qui se fait livrer des épices venant du sud de la France, comment peut-elle éviter de jeter l'emballage de cette grande quantité d'épices qu'elle s'est faite livrer en vrac? Et là, il y a vraiment des aspects logistiques. Donc, on travaille aussi...
Surtout qu'après, tout se rajoute au niveau de l'hygiène, etc. Enfin, je connais un petit peu le sujet puisque j'ai participé à du design de repackaging là-dessus. Donc, je vois bien ce que tu veux dire. C'est vraiment très complexe parce qu'il y a une multitude d'acteurs sur le sujet qui ne sont pas forcément faciles à aligner, disons.
Oui. Et donc, en fait, plus on va travailler pour lever tous les freins logistiques, les freins de praticité, les freins réglementaires. Je te le disais au début, du coup, un des grands axes de travail de Réseaubrac, c'est le lobbying, c'est d'aller pouvoir lever les freins législatifs qui existent et qui empêchent certains produits d'être vendus en vrac. Si on veut que les gens changent radicalement leur manière de consommer, ou en tout cas en grande partie, il faut pouvoir leur offrir une alternative à ce qu'ils achetaient au préalable en pré-emballé. Donc si l'offre vrac est restreinte à cause de conditions législatives, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc notre travail, c'est ça. Lever des freins techniques, c'est aussi susciter l'innovation, la recherche et développement. Donc c'est montrer qu'il y a un marché qui existe, qu'il y a une demande consommateur. On a créé un salon du vrac, un salon professionnel, qui va avoir lieu cette année le 25 et le 26 mai à la Cité Fertile, qui va accueillir plus d'une centaine d'exposants, donc des fournisseurs de produits vrac alimentaires, mais également cosmétiques, détergents, équipements pour le magasin. Ça, c'est un outil qui permet aux magasins, futurs magasins, de rapidement monter leur offre vrac, et donc de plus rapidement ouvrir, et du coup de proposer du vrac pour que les citoyens consomment en vrac. Tu vois ? Et là, maintenant, on est aussi approché de plus en plus par les villes et les régions qui veulent développer le vrac sur leur territoire. Donc tu vois, c'est tout ce travail que l'on fait avec l'ensemble des acteurs, et aujourd'hui il n'y a pas un seul acteur, je crois, qui n'est pas intéressé ou qui n'a pas de lien de près ou de loin avec le vrac, et c'est ce travail-là que l'on va faire. C'est également avec les interpros bio, les interprofessions de la bio, les agriculteurs qui nous disent bah, nous, nos adhérents sont intéressés, veulent faire du vrac, et dans les axes que l'on a, c'est comment recréer des filières française du vrac, que la graine de lin, de courge qu'on consomme en vrac, la lentille, la quinoa, puisse être produite en France.
Mmh. Ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que la lentille, je lisais un article il y a quelques mois, il faut beaucoup, beaucoup d'hectares de façon à avoir aussi une production qui soit valorisable et rentable pour le producteur. Et donc ça, encore une fois, ce sujet juste du vrac amène à des problématiques multiples qui aussi nous amènent à relocaliser la production. Et par ces temps de coronavirus, je pense que c'est un sujet un peu plus pertinent. Est-ce que t'as des conseils pour ceux qui aimeraient, qui vont au supermarché mais qui croisent comme ça, qui passent à côté des réseaux, enfin des rayons vrac, mais qui n'ont pas forcément fait le pas. Est-ce que t'auras des conseils à leur donner pour dire ben voilà, si vous commencez le vrac à partir de demain, voilà ce que je vous recommande de faire pour faire en sorte que vous réussissiez et vous appréciez l'expérience.
Oui, alors la première chose que je dirais, c'est tester. Il faut y aller, il faut essayer. Il faut pas y aller avec trop de produits. Il faut essayer un produit qui nous parle et d'avoir une première expérience pour apprendre à se servir, à goûter, à le conserver chez soi et voir ce rapport qu'on a au produit et à la quantité. Et si l'expérience est satisfaisante, bah de continuer petit à petit avec d'autres produits et de pousser la porte d'une épicerie vrac. Si vous avez la chance d'en avoir une à côté de chez vous, sur notre site internet réseauvrac.org, on a publié une carte des épiceries vrac en France, adhérentes de l'association, qui seront du coup ravies de vous accueillir chez elle et de vous conseiller, parce qu'une première expérience vrac, elle commence aussi par là, avec un vrai conseil en magasin et aussi une diversité de produits disponibles. Et vous allez être assez étonné de voir la palette de produits aujourd'hui qui est disponible en vrac. Donc ça, c'est la première chose à faire.
Et ça, je tiens juste à compléter en disant, c'est vrai qu'il y a certains magasins où parfois je découvre des produits, des trucs, je ne savais même pas que ça existait. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Voilà, donc c'est ça. Pour une première expérience, je recommanderais vraiment à toute personne d'aller pousser la porte d'une épicerie vrac, pour voir ce qui existe et pouvoir surtout se faire conseiller et assister, discuter voilà avec son commerçant qui connaît vraiment bien ses produits. Et d'autre part, de suivre Réseau Vrac sur les réseaux sociaux. On est présent pour suivre du coup l'actualité du secteur. On y relaie les ouvertures des prochaines épiceries. Du coup, il y en aura peut-être une prochainement à côté de chez vous. Et pour suivre également la sortie prochaine de notre guide du consommateur qui aidera, du coup, qui vous aidera à passer le cap ou à vous perfectionner dans votre pratique du vrac. Et sinon, pour tout entrepreneur du vrac ou acteur déjà engagé dans le vrac, de rejoindre l'association, bien évidemment.
Excellent. Bah, de façon en plus, vous avez un programme maintenant de formation qui est assez complet. Donc effectivement, ce serait dommage de passer à côté. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit?
En 2020, il faut plus hésiter, il faut foncer, il faut passer au vrac.
Ok, nickel. Bah, en tout cas, merci beaucoup Célia. J'ai passé un très bon moment. Je trouve que ce sujet du vrac reste passionnant et effectivement, je trouve que les évolutions du secteur sont à surveiller. Donc, un grand merci pour ton temps.
Merci beaucoup.
Je te dis à bientôt.
À bientôt. Merci.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.